avec Jeanne Fèvre-Dartier au Salon du Livre de Paris. Bonjour.
Bonjour Tiffaine.
Alors on va parler du dernier vampire qui vient de sortir aux éditions Bragelonne. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce livre ?
Pour moi, c'est pas du tout un livre de bitlit, puisque on est dans un genre en ce moment qui est en vogue. Et donc c'est plutôt, pour moi, c'est un polar fantastique avec une dimension historique. Donc ça commence comme un polar classique, très classique, avec un groupe de flics de la brigade criminelle. On est quai des orfèvres, on est vraiment dans un roman noir très classique. Et ces flics sont appelés sur une scène de crime un peu étrange, puisque ça se passe dans un laboratoire de l'Inserm. On découvre un cadavre qui est égorgé, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de traces. Il n'y a pas de trace humaine, il n'y a rien sur la scène de crime. Simplement, il y a une revendication, le sang n'est plus la vie. Alors, ça intrigue beaucoup les flics. Il y a un meurtre, puis un deuxième meurtre, puis un troisième meurtre, avec la même élaboration. Et donc, ils commencent à se dire que le meurtrier a quelque chose à voir, peut-être une maladie du sang, puisqu'il ne cible que des hématologues. Et peut-être que c'est un cas de vampirisme. Donc on bascule progressivement dans la dimension fantastique. Et du reste, les flics, à court d'inspiration, n'arrivant pas à plaquer un schéma rationnel et une méthodologie rationnelle sur l'enquête, à un moment, se mettent à relire Bram Stoker pour essayer de comprendre, à travers la lecture de Dracula, qui pourrait être leur adversaire. Et j'ai vraiment voulu installer ce basculement de la littérature noire vers la littérature fantastique. C'est un parti pris délibéré. J'ai beaucoup pensé au roman de Maurice Dantec, Les Racines du Mal, qui effectivement démarre comme un roman noir avec un enquêteur qui est un asocial un peu barré, un scientifique de haut niveau, un peu surdoué mais en même temps assez particulier, qui traque un tueur en série. Et très rapidement, on bascule dans un roman de SF. Et moi, j'avais beaucoup aimé ce basculement et j'ai vraiment construit ce livre comme un roman noir qui en fait se déroule ensuite comme un livre fantastique.
C'est intéressant également la façon dont vous avez continué quand même sur le roman noir, puisque vous incluez une enquête parallèle. Donc on continue sur le thriller, mais un thriller un peu différent par rapport à la trame principale. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à découvrir le dernier vampire, justement.
Oui, en fait, ce que j'ai voulu, c'est qu'il y ait un fil noir qui court tout le long du récit. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans un roman de vampire assez classique, après, hein, avec la volonté d'être dans le classicisme, un classicisme à la Bram Stoker. Ou plus exactement, pour moi, le personnage, je l'ai vraiment, enfin, le récit, je l'ai vraiment construit aussi en pensant beaucoup au Dracula de Coppola. Hein. Donc on est dans la littérature fantastique assez classique, mais en même temps, il y a un fil noir. Ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai voulu faire une sorte de thriller psychologique, c'est-à-dire que la personnalité du vampire ne se découvre que petit à petit par les indices qu'il laisse plus ou moins volontairement aux flics. Donc en particulier, il y a une thématique autour du vin, puisque on découvrira que le personnage est bordelais, et donc il y a une thématique autour du vin. Le vin, il ne peut plus le boire. C'est quelqu'un qui est issu du monde du vin, du monde des chais. Il ne peut plus le boire, mais il le redécouvre à travers le sang des personnes qu'il séduit. Et donc ça, j'ai voulu vraiment que ce livre soit installé dans la littérature noire. Même si on est dans un livre de vampire, la construction est celle d'un roman noir.
Ce parallèle entre le goût du sang et le goût du vin se retrouve assez régulièrement en ce moment. Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez déjà lu ? Est-ce que c'est un goût que vous avez pour le vin et vous aviez envie de le montrer un peu autrement ?
Alors, je vis entre Paris, Bordeaux et le Cap Ferré. Je vis avec un Bordelais. Et pour la Parisienne que je suis, la découverte du Sud-Ouest, ça a été la découverte d'un certain style de vie très hédoniste, très lié au bon vin et à la bonne et aux bonnes tables. C'est quelque chose qu'on sent vraiment beaucoup quand on vit là-bas. Et donc toute cette espèce de plaisir de vivre, de raffinement, de culture autour de la nourriture et du vin, j'ai voulu le faire passer dans le livre. Et c'est pour ça que j'ai installé mon personnage dans le monde du vin. C'est un fils de maître de chais. Le petit-fils d'un négociant, et en fait il regrette beaucoup sa période humaine pendant laquelle il avait effectivement accès à ces plaisirs-là. Et ces plaisirs-là, il ne peut plus les avoir que par réminiscence, en effectivement en humant des grands crus, en les collectionnant, ou en faisant boire à sa partenaire sexuelle et amoureuse des grands vins et en prenant son sang ensuite.
Vous avez choisi de détailler notamment la période de la Révolution française pour le passé du vampire. Je ne vais pas en dévoiler trop sur les raisons. Est-ce que c'était important pour vous de montrer cette période-là plutôt qu'une période peut-être victorienne, ce qui est quand même assez classique au niveau vampirique? Est-ce que ça permettait quand même de vous épanouir plus en fait avec votre personnage et puis avec votre histoire?
Moi, j'aime bien jouer sur le registre temporel qu'apporte le personnage du vampire, parce qu'il est immortel, donc il a une mémoire très longue, et c'est un témoin des scènes qu'il a vécues, soit en tant que mortel, soit en tant qu'immortel, et donc on peut l'installer dans des périodes différentes. Donc c'est ce que j'ai fait dans les trois livres. C'est vrai que Rouge Flamenco se déroule en Algérie pendant la période coloniale et à Séville, puisque c'est le personnage de Carmen, donc il y a une danseuse de flamenco, et c'est installé à l'époque de l'opéra de Bizet et du roman de Mérimée. Le deuxième livre, La déesse écarlate, c'est vraiment en référence au mythe hindouiste, donc on a une période pré-hindouiste et une période au XVIIIe siècle, au moment de l'Empire turco-mongol, et aujourd'hui. J'ai voulu reprendre ça avec le dernier vampire, sauf que j'ai radicalement changé le point de vue, parce que là, on avait un point de vue dans les deux premiers livres qui était un point de vue très exotique, avec des références à des cultures différentes. Et là, je me suis dit, on va être en France, on va être dans un moment charnière de la vie française, de l'histoire française, c'est la Révolution. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à lire beaucoup de choses sur la Révolution pour arriver à la comprendre, parce que c'est quand même une période très complexe, et pour trouver quel était le bon axe que j'allais utiliser. Et j'ai trouvé les Girondins, alors ça c'est aussi en référence à Bordeaux, parce que les Girondins sont les héros de Bordeaux, hein, parce que c'est eux les premiers qui ont pensé à un régime démocratique. Même Danton, Robespierre n'y pensait pas, ils voulaient installer une monarchie constitutionnelle. C'est vraiment les Girondins qui ont été précurseurs et qui ont dit non, il faut passer à la République. Et donc là, c'était un hommage à Bordeaux et aux Girondins. Et en même temps, les Girondins, on en a très peu parlé. Il y a énormément de littérature et de filmographie sur la Révolution. En revanche, les Girondins, c'est un peu les oubliés de la Révolution française, c'est les enfants maudits, parce qu'ils sont coincés entre les constituants qui ont la légitimité parce qu'ils ont balayé l'ancien régime et qu'ils ont instauré un État moderne et les bases d'une démocratie moderne, et les montagnards et les grands personnages de la terreur qui ont remis le pays à flot alors que les Girondins les avaient emmenés à l'échec et à la guerre contre les puissances étrangères. Donc c'est les enfants maudits de la Révolution, et je trouvais intéressant de travailler sur eux parce que personne ne l'avait fait, ou quasiment personne. Il y a eu un grand livre qui était un best-seller à l'époque, celui de Lamartine, qui était un livre de commande. Lamartine était un joueur, donc il avait des têtes de jeu, et un éditeur lui commande un bouquin sur les Girondins, il le fait, ça devient un grand best-seller, donc il paye ses dettes, il en fait d'autres, mais ça c'est encore une autre histoire. Et après, rien. Là, je me suis dit, c'est quand même très original, je vais travailler là-dessus. Donc au départ, il y a mon amour pour le Bordelais, et puis après, il y a une opportunité d'utiliser un thème sur lequel personne n'avait travaillé, quasiment personne, à part des historiens bien sûr.
Un roman qui est en fait assez à contre-courant du coup, parce que voilà, là c'est quelque chose qui n'a pas été traité, mais la façon dont est traité le vampirisme moderne, c'est très à contre-courant. Comme vous le disiez, c'est pas un roman de beatlit par rapport à tout ce qui sort actuellement. Là on a vraiment un vampire qui est là, qui se montre peu à peu, qu'on ne découvre pas tout de suite évidemment dans la narration comme étant un vampire. Au départ, non, pas du tout. Et après, en fait, il se comporte dans le monde moderne avec toute la dégénérescence de sa race. Et pour autant, il comprend pas ce monde moderne, mais il essaye quand même de s'y insérer et puis de remettre tout son passé et puis de l'imposer aux autres, parce que voilà, il peut pas se défaire de toute sa vie immortelle et de tout ce qu'il a vécu. Et c'est quand même assez à contre-courant, ça.
Oui, peut-être. Non, mais je me rends pas compte parce que en fait, j'ai pas lu de beatlit. Donc je pourrais pas, j'aurais du mal à m'insérer dans quelque chose d'autre. Pour moi, la littérature fantastique, le déclic, ça a été la lecture d'Anne Rice. Hein, de l'envie d'écrire sur les vampires, ça a été la lecture d'Anne Rice. Mais préalablement, j'avais lu énormément de littérature de terreur. Donc j'ai lu tous les grands maîtres anglo-saxons de la terreur, de Stephen King à Peter Straub, en passant par Masterton, j'en passais des meilleurs. Donc je suis plus dans ce courant-là, de la littérature de l'imaginaire et de la littérature des terreurs anglo-saxonnes. Je suis pas du tout dans la beat-lit. Et puis bon, je crois que j'ai toujours aimé le fantastique. Je dirais pas comme tout le monde, mais comme tous les gens qui aiment ce genre de littérature, j'ai lu Edgar Poe quand j'avais 20 ans, j'ai lu Lovecraft. Pour moi, ce livre, il a beaucoup plus à voir avec le Horla de Maupassant ou avec la métamorphose de Kafka qu'avec la beat-lit. Cette espèce de transformation d'un personnage, je pense au Horla. C'est ça, hein, le Horla, c'est quelqu'un qui progressivement va basculer dans la folie. Et la métamorphose, c'est un homme qui se transforme en un insecte. Pour moi, c'est ça. C'est le basculement dans autre chose. Dans La part des ténèbres de Stephen King, qui est un livre que j'aime beaucoup, il y a un personnage qui s'incarne, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez du livre, c'est un écrivain qui réussit avec une série, et son personnage, et à un moment il décide d'abandonner la série, son personnage se révolte, il va progressivement s'incarner pour obliger son auteur à reprendre la série. Donc après il y a un combat à mort qui s'instaure entre l'écrivain et son personnage, et ce personnage s'incarne, donc il bascule, il bascule vers autre chose. C'est ça que j'aime dans ce type de littérature, c'est l'effet de bascule. Hein. J'en parlais tout à l'heure à propos du passage du roman noir au fantastique, mais là c'est pareil, c'est le renversement qui est intéressant à écrire. C'est de surprendre le lecteur en l'emmenant dans quelque chose qu'il n'avait pas imaginé.
Du coup, le héros c'est le vampire ou c'est la policier ?
En fait, il y a trois personnages. Il y a un duel entre la femme flic et le vampire. Le vampire se demande qui est cette femme. Il s'imagine qu'il l'a peut-être rencontrée. On comprend qu'il a tué quelqu'un à l'aube de son histoire de vampire. Et il se demande si cette femme n'est pas une réincarnation. Ou c'est pas la femme qu'il a tuée qui ne serait pas forcément morte. Ça peut devenir immortel. Enfin, il se pose des questions sur cette femme. Et à la fois, il en a peur, mais il y a un effet d'attirance et de répulsion entre lui et elle. Et puis progressivement, il y a un autre personnage féminin qui apparaît, qu'on n'a pas vu apparaître, qui au départ est un objet, c'est un otage, parce que le vampire, pour obliger la femme flic à sortir de sa position de flic, fait du mal à tous ceux qui l'entourent, donc son amante, d'une part, et sa meilleure amie ensuite. Donc, personnage d'otage se met à exister, et il y a une autre relation qui s'instaure entre le personnage du vampire et elle. Donc il y a une triangulation avec l'effacement d'un personnage au profit d'un autre.
Une bande-son à écouter en même temps qu'on lit votre roman ?
Moi, je suis très obsessionnelle quand j'écris et je suis très obsessionnelle quand j'écoute de la musique, donc j'écoute beaucoup de Philip Glass. Voilà, bon. J'aime aussi Anthony pour le côté très sensuel de la musique. Voilà, donc s'il y a une bande-son, ce serait les bandes-sons de Philip Glass.
Un mot sur l'ambiance du Salon du Livre ?
Ben moi, je la trouve très sympathique. Bon, aujourd'hui, pour moi, c'est une journée évidemment riche et dense parce que j'ai rencontré beaucoup de gens intéressants et donc c'est extrêmement gratifiant parce qu'on écrit, on est tout seul. Donc après, c'est très intéressant d'avoir des échanges avec d'autres. Donc pour moi, c'est une bonne journée.
Et pour terminer nos interviews, on a une question qui est celle-ci. Si vous aviez la possibilité de donner vie à un de vos personnages, quel que soit le roman que vous ayez déjà écrit, qui serait ce personnage et que ferait-il de nos jours ?
J'ai un attachement très fort pour Donadieu, personnage de mon livre de vampire. Donc je pense que je vais le réincarner sur le plan littéraire. Mais pour moi, c'est un personnage extrêmement, extrêmement attachant. Voilà. Je n'arrive pas à faire le deuil de ce personnage. Du reste, quand j'ai terminé Le Dernier Vampire, j'étais comme une femme enceinte qui venait d'accoucher. J'ai eu ma dépression postnatale. Et donc j'ai écrit un scénario avec le personnage de Donadieu. Bon, je ne sais pas si je garderai ce scénario-là ou si j'en ferai un autre ou si je ne le ferai pas. Mais en tout cas, si je dois réincarner un personnage sur le plan littéraire, ce serait lui. Et pourquoi pas dans la réalité d'ailleurs. Je ne sais pas, il faut réfléchir. Ce serait un homme politique.
Merci.